cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Alio Sazoulay, bonjour Jonathan Benichou.
Bonjour, bonjour. Bonjour.
Vous êtes tous les deux embarqués dans une aventure, on pourrait dire assez atypique, originale, qui s'intitule « Musique d'outre-monde ». J'allais faire justement le lapsus peut-être d'outre-tombe, on va voir un petit peu pourquoi. Le répertoire qu'on pourra entendre le 14 mai et le 15 juin au Théâtre de la Vieille Grille à Paris, dans le 5e arrondissement, mais également à Rouen, le 8 mai, est effectivement, on peut dire, à part, puisque, et voire totalement unique, puisque c'est celui des musiques composées dans les camps de concentration. Elio Sazoulay, vous êtes à l'origine de ce projet, vous êtes à la tête de l'ensemble de musique incidentale. On parlera également de tout ça. Pour ces concerts, donc, seront présents sur scène Marielle Rubens, Jonathan, vous serez là derrière votre piano. Il y aura également Pablo Schatzmann et Elio Sazoulay avec votre clarinette et la direction musicale de ce projet. Alors c'est vrai que quand on parle comme ça, musique composée dans les camps de concentration, c'est quelque chose d'assez unique. On se dit, il y avait de la musique donc à Dachau, à Ravensbrück, etc. Comment vous êtes rentré en contact de ces partitions? Et d'abord, est-ce qu'il y avait des partitions?
Le plus extravagant et le plus extraordinaire, c'est qu'il y a et qu'on recense à l'heure actuelle entre 3000 et 4000 partitions dans tous les camps de concentration. Parce que quand vous citez les camps que vous venez de citer, on en oublie, il y en a des centaines. Vous savez qu'on, voilà, il y a peut-être 1200, 1300 camps de concentration sous camps, etc., etc. Et chaque camp possédait un orchestre, car les nazis avaient le goût, vous le savez, de la musique et de la mise en scène, car vous n'avez pas tort, car évidemment, la musique servait les mises en scène, parfois terribles, et très souvent lamentables, des nazis, qui, notamment à Auschwitz, se servaient de la musique pour donner un soufflet d'énergie aux commandos qui partaient au travail. Il y avait 4 heures de musique par jour à Auschwitz, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et tous les commandos, en rang par 5, partaient au pas des musiques et des valses et des musiques qu'adoraient les nazis. C'était, on ne peut pas imaginer d'emploi plus obscène de la musique que celle des nazis dans les camps. En revanche, comme par une espèce de grâce sublime, il y a eu des artistes qui, parfois, au péril de leur vie, ont composé des œuvres. Et nous interprétons non pas le répertoire qu'affectionnaient les nazis, mais bien au contraire, le répertoire, si je puis dire, plus clandestin de la création musicale de tous les déportés, qu'ils soient juifs ou résistants, prisonniers, militaires, enfin.
Concrètement, comment se passe l'archivage de toutes ces partitions? Est-ce qu'il y a des centres qui sont constitués, qui essayent de recueillir? Comment on a retrouvé toutes ces traces? Et vous-même, comment justement avez-vous pioché dans ces milliers de partitions que vous venez d'évoquer?
Alors sur ces 3-4 000 partitions, bien évidemment, vous savez, il ne s'agit pas de trouver à chaque fois un chef-d'œuvre, vous voyez, évidemment. Voilà. Par contre, c'est vrai que ce qui est étonnant, et je répondrai à votre question, je prends un tout petit détour si vous permettez, ce qui, moi, me paraît très très fort, c'est qu'au-delà de la qualité intrinsèque qui constitue ou pas un chef-d'œuvre ou de musique, c'est que chaque œuvre porte en elle une force et une nécessité vitale absolue. C'est ça, à mon avis, qui fait que de la berceuse, en passant par la sonate pour piano, à l'opéra, je veux dire à la petite comptine, mais tout est, comment dirais-je, rempli d'une puissance incroyable et d'une force, pour moi, qui est inatteignable dans le répertoire subventionné de la musique actuelle. Et parmi toutes ces partitions, alors, heureusement, je ne suis pas le seul à faire ce travail-là, et puis il y a des historiens, puis il y a des partitions maintenant qui ont été publiées, donc moi je pioche parmi les archives, puis vous savez, on rencontre les gens nous racontent des choses, on rencontre des survivants qui vous donnent des partitions, et puis on joue ces œuvres-là. C'est très très bouleversant, hein, le travail que nous faisons.
Comment justement, là je m'adresse plus aux musiciens que vous êtes tous les deux, compositeurs également, comment on fait abstraction, et ce qu'on doit faire d'ailleurs abstraction, du côté totalement unique et bouleversant de la création de ces musiques, quand on est juste un musicien, un interprète? C'est-à-dire que les gens qui vont venir viennent à ce qu'on pourrait appeler vulgairement à l'américaine de l'entertainment, c'est-à-dire un concert, on est dans une salle, on voit des musiciens, mais malgré tout, on connaît la genèse et l'origine de ces partitions. Comment on essaie justement de se placer là-dedans, dans ce contexte totalement à part, pesant et terrible même, d'une certaine manière?
Bon, alors je vais donner mon regard là, sur cette question. C'est vrai que lorsque nous sommes en face de ces partitions, il y a un contact direct avec les scènes dont ont pu être témoins donc les compositeurs, on peut revoir, ressurgir et se retranscrire dans ce langage cette horreur inimaginable et inexplicable et surtout dont on ne peut absolument pas rien qu'on ne peut pas décrire. Et c'est cette chose là que nous essayons de retranscrire. Comment on doit le mener, le porter vers le public, ça c'est une grande question. Ça c'est aussi pour moi quelque chose de tout à fait relativement nouveau, d'être en face de ce type de langage.
Mais c'est là où Jonathan, il est génial. Parce que réellement, c'est un musicien visionnaire. Et quand je dis visionnaire, je ne peux pas dire avant-gardiste. Visionnaire, c'est parce que quand il joue, il voit. C'est exactement ce qu'il est en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il voit les scènes. Et donc, la question à laquelle il faut répondre, et qui est vraiment intéressante de savoir, comment est-ce que le public reçoit cette musique-là? Bon, déjà, dès lors que vous êtes habité par une vision, normalement, le public le ressent. Et la deuxième chose, je suis un grand bavard, vous l'avez déjà remarqué. Et donc, tout mon travail consiste à présenter les pièces, les présenter, mais pas à la manière de Zigel. On rentre dans les pièces. Je ne vous les donne pas à voir de loin en disant « Regardez comment c'est construit, petit A, petit A, petit B, thème A, thème A. » Non, non, non. On rentre dans les pièces, on rentre dans le contexte et du coup, les gens... Il ne s'agit pas d'entertainment. Malheureusement, vous savez, c'est un projet musical hyper éthique, en fait. L'intérêt, pour moi, et l'intérêt, à mon sens, pour le public, c'est de ne pas passer un bon moment. Il ne s'agit pas de passer un bon moment avec la chanson en disant « Ah, oh, c'était triste, en même temps c'était beau, et puis il y a eu un petit peu de musique klezmer. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des spectacles maintenant qu'on fait sur ça, nous ne sommes pas les seuls, mais ces spectacles où on passe un bon moment, me semble... Non, non, ce que je veux dire, c'est... moi le but c'est que les gens ils ressortent plus intelligents. C'est hyper prétentieux comme ambition, mais mon but c'est que quand quelqu'un y rentre dans la salle, il ressort, il faut qu'il ait compris quelque chose. Voilà. Donc on y injecte le plus possible de l'éthique et de la morale au sens le plus noble.
Il y a un devoir de jouer cette musique? Est-ce qu'il y a même, ne serait-ce que l'étape précédente, est-ce qu'on a le droit de la jouer d'une certaine manière? C'est-à-dire, est-ce que même vous, en tant qu'interprète, vous êtes dit finalement, cette musique a été conçue, a été imaginée, a été pensée, a été interprétée dans un contexte tellement atypique? Est-ce qu'elle a une raison d'être? Est-ce qu'on doit témoigner? Comment vous avez abordé cette partie-là, j'allais dire, au tout début de votre projet?
Après, je te laisse parler, hein, Jonathan, parce que sinon, moi, je parle tout le temps, mais après, je te... C'est pas qu'on a le droit de la jouer, c'est qu'on a on a vraiment le devoir de la jouer. Bon, après, on a l'obligation de ne pas en faire un spectacle. C'est très curieux, hein. Il y a une marge et que les artistes ont du mal à cerner parce que l'artiste est naturellement dans le spectaculaire, au sens pas spectaculaire, pas Stade de France, mais je veux dire, dans le spectacle, on arrive, on salue, clap, 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 on est content. Non, on est dans le devoir de transformer, comment dirais-je, l'événement concert en une situation différente de celle d'un spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, à mon avis, c'est... Et du coup, on va aller chercher le public et nous installer dans un rapport, comment dirais-je, plus intime et je dirais presque plus... naturellement plus profond. Voilà, naturellement plus profond.
Beva sobieras el junio pasos tavos ama. Bojei tatus namai tanku fosje cimiu mama. Beva sobie rase junia pozos tava sama. Bojei tatus namai tanku fosje cimiu mama.
J'imagine, Jonathan, qu'on n'attrape pas une partition comme celle-ci de la même manière qu'on attrape une partition de Scriabine. Est-ce que justement, la première fois que vous êtes plongé concrètement dans cette musique, que vous avez posé les partitions sur votre piano et que vos doigts ont commencé à se passer sur les touches, comment ça s'est passé justement? Est-ce qu'il y a eu une réticence? Il y a eu pour reprendre le mot d'Elius, de devoir également?
Oui, il y a à la fois une certaine appréhension et à la fois, lorsqu'on dépasse cette appréhension, cette musique, ce texte devient plus fort que notre peur et prend vraiment toute la place. Et même, elle continue à vivre tout au long des nuits et de chaque instant, parce qu'elle fait partie après de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se dissocier de cette musique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette musique commence à retentir, c'est une musique qui, quelque part, continue à travailler incessamment. C'est-à-dire qu'on n'a plus la possibilité de prendre une distanciation. Pourquoi ? Parce que, comme a dit Helios, c'est une musique qui est emplie de force, une force qui est absolument pas, à la fois qui est contenue dans la condition humaine, la plus profonde, parce que elle est elle est plutôt imbriquée dans les profondeurs de la condition humaine par nécessité de survie et d'exprimer et de s'appuyer sur quelque chose qui est la seule chose sur laquelle pouvaient s'appuyer ces compositeurs, j'imagine. Et à la fois, il y a une dimension qui va dépasser l'être. Une dimension qui va dépasser l'être, qui va toucher quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le soi, parce que la dignité, elle a été spoliée. Donc on arrive à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'humain, malheureusement. Et on découvre, c'est-à-dire que dans ce message, il y a quelque chose qui dépasse la condition humaine. C'est ce que je ressens, moi, personnellement. Et on se trouve en situation de quelque chose qui dépasse l'être. C'est-à-dire il y a l'inspiration. Par exemple, nous prenons les compositeurs classiques, du classique, désolé de cette appellation qui ne veut rien dire. Et finalement, nous avons l'impression que ces compositeurs ont dépassé vraiment toute notion d'identité, de stylistique, de quelque chose. Il y a quelque chose qui est complètement... il y a une forme éclatée, si vous voulez. La forme est éclatée à chaque instant. Voilà.
Alors, ces compositeurs, qui étaient-ils ? J'imagine que c'était un peu à l'image de la population de ces camps de concentration, c'est-à-dire il y a aussi bien des musiciens professionnels que des amateurs. Tout le monde, il y a une sorte de remise à égalité de tout le monde. On a des traces, on a des documents, on sait exactement.
Parmi la population musicale, donc qui peuplait les camps, soit de prisonniers, soit les camps de concentration, soit les camps d'extermination, où là, les purs camps d'extermination, la musique, il ne reste pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il y avait des orchestres, mais eux aussi ont été les musiciens des orchestres vraiment décimés. Il y a très, très peu de choses là, par contre. Il y a de tout, comme vous le dites. Il y a des amateurs sublimes, des amateurs de génie, comme le sont parfois d'ailleurs les amateurs. Il y a de magnifiques professionnels. Il y a aussi de la musique liturgique, à la fois juive et pas juive. Et il y a des gens qui ont composé, on trouve des opéras sublimes. Et puis après, vous avez par exemple la Térésine, ou excusez-moi, appelée Theresienstadt, à plusieurs dizaines de kilomètres de Prague, 60-80 kilomètres de Prague, un camp, une espèce de camp ghetto, où là, vous avez toute l'intelligentsia pragoise. Alors du coup, on donnait des concerts, on a donné des opéras. Moi, j'ai dirigé il y a quelques années Brundiba, ça a été donné à un opéra pour enfants, il a été exécuté 55 fois dans un camp. Victor Ullmann, qui était un élève de Schoenberg, il a composé deux opéras. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment une... Enfin, Der Kaiser von Atlantis, un opéra, pardon, et d'autres œuvres, des sonates. Enfin, je veux dire qu'il y a eu un répertoire absolument, vraiment incroyable, d'une vitalité dingue, et même pour le cas précis de Térésine, qui était vraiment le vivier d'un certain nombre de partitions absolument délirantes de musicalité, vous avez énormément d'œuvres qui ont été considérées comme de la musique dégénérée dans l'Allemagne nazie. Et là, curieusement, dans cette espèce d'autarcie, là, dans cette espèce, si je puis dire, de pseudo-autogestion culturelle, parce qu'il y avait, vous savez, un conseil juif à la culture, etc., les juifs pouvaient, bien heureusement, si je puis dire, aller jusqu'au bout de leur expression musicale de manière complètement, presque, en tout cas, presque complètement libre. Et ça donne des œuvres d'une puissance et d'une beauté. Mais tous ces compositeurs dont je parle ont été assassinés en 1944 à Auschwitz. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est resté quasiment.
Comment ce projet, quel impact il a eu, j'imagine, sur la... sur les musiciens que vous êtes, c'est-à-dire votre approche et votre rapport à la musique à chacun.
C'est un sujet qui est vraiment, Jonathan le confirmera, c'est un sujet qui est véritablement vertigineux. C'est-à-dire que dès lors que moi j'ai mis la main dessus il y a 5-6 ans, j'ai fait un concert, puis un deuxième, etc., etc., etc. Il y a un disque qui va très bientôt sortir, enfin, là, qui est en fabrication là. Et c'est un sujet qui est vraiment tellement labyrinthique, vertigineux, qu'une fois, comme je dis, que vous avez mis la main dedans, les yeux dedans, et évidemment là, toute votre musique là-dedans, que c'est presque difficile d'en sortir. C'est très, très, très curieux à quel point c'est quelque chose qui vous happe et qui vous hante, comme le disait tout à l'heure Jonathan, dès lors que vous commencez à travailler ça. Parce que justement, il y a des critères qui sont les critères habituels des œuvres classiques ou pas classiques, et je suis d'accord, ce terme-là, c'est une immondice, le terme de musique classique, mais on est avec des critères qui sont complètement, complètement différents, et du coup, qui rendent votre pratique, qui vous remettent à la source et à la base des choses. Et je crois, vous savez, l'ensemble que je dirige s'appelle l'ensemble de musique incidentale, est un ensemble. Alors, les hypocrites, quand ils parlent des petits ensembles comme ça, ils disent c'est un ensemble à géométrie variable. Bon, moi je déteste ça. Moi, l'ensemble, je ne suis pas un ensemble à géométrie variable, je suis un ensemble constitué de mercenaires dont le nombre varie en fonction des sous qu'on me donne pour faire un concert. Ça, c'est la réalité. Et comme tous les mercenaires, eh bien, je choisis les meilleurs. Et quand je dis je choisis les meilleurs, c'est que moi j'ai besoin de travailler avec des musiciens intelligents. Parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder avec la légèreté d'un concert qu'on joue, avec tous les contresens qu'on peut faire sur Beethoven, sur Mozart, sur Haydn ou sur qui vous voulez. Bon, ces musiciens-là qui sont des espèces d'entités sur lesquelles on a fait justement, comme je vous disais, toutes les erreurs et tous les contresens. Avec cette musique-là, s'il n'y a pas cette profondeur, ce côté visionnaire qu'a Jonathan et qu'ont les autres musiciens qui sont à côté de moi, eh ben on ne gagne pas ce qu'on est venu chercher quand on fait un concert comme celui-là.
Et ça a chamboulé finalement votre rapport à la musique, la philosophie que vous aviez des interprètes ou compositeurs que vous êtes. Est-ce qu'il y a un avant et un après finalement par rapport à ce projet?
Oui, c'est vrai que ça ne peut que enrichir d'être en face de telle partition, de telle force, de telle puissance, de telle suggestion. Ça ne peut que affiner, ça ne peut que nous permettre de mieux comprendre. Parce que comment des compositeurs ont pu arriver à composer des choses aussi puissantes et arriver à trouver la force dans ces moments où tout était désespoir le plus absolu. Et finalement, c'est une leçon pour mieux appréhender n'importe quel type de musique, de page, de n'importe quel objet sonore, parce que dans ces contextes aussi extrêmes, il n'y a pas plus extrême, et dans ce contexte aussi extrême, arriver à, on ne peut que être finalement dans une sensation de quelque chose qui est totalement ça touche la révélation. Voilà, ça touche la révélation.
avez dit, Elios, tout à l'heure, hein, on n'est pas là pour faire de l'entertainment avec un tel projet. Alors vous, on a souvent tendance sur le dos duquel on a tendance à mettre plein d'étiquettes, iconoclaste, scandaleux, atypique, etc. Un projet justement dépourvu de ce genre d'étiquettes extrêmes. Est-ce que, alors évidemment, vous avez été attiré pour la beauté de ces partitions, pour tout ce que vous avez voulu dire. Est-ce que le fait justement que ça vienne de quelqu'un comme vous, plutôt un peu sulfurant, pour rester toujours dans les étiquettes, fait justement qu'on s'intéresse, que certaines personnes vont se pencher avec plus d'intérêt sur un tel projet ?
C'est vrai, vous avez raison. Depuis notamment la révélation de mon attentat à l'Opéra de Paris, me colle une étiquette de compositeur le plus effronté de ma génération, de scandaleux, etc. etc. Et c'est vrai, et je l'assume, et je trouve que c'est magnifique. Le fait d'aborder un tel sujet et que les gens s'étonnent que j'aborde un tel sujet me surprend, moi, le premier. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous créez le choc, c'est souvent pas pour désir de choquer, c'est parce que votre nature se place naturellement à un endroit où votre posture est choquante pour, j'allais dire, le public. Moi, il m'a toujours semblé d'être d'une très très grande sagesse et les gens m'ont toujours trouvé iconoclaste quand moi je me croyais sage. Alors, ce qui est pour moi fondamental, et ça c'est très très important, je vais vous faire juste, il ne s'agit pas de faire de jeu de mots, loin de là. Vous savez, dans Auschwitz, si on coupe le mot en deux, vous avez « aus », qui veut dire en allemand plein de choses, mais qui veut dire « hors d'eux ». Et vous avez le mot « witz ». Et « witz », en allemand, c'est le mot d'esprit. Et c'est même, en yiddish, c'est l'humour juif total. C'est-à-dire, le « witz », c'est l'humour juif. Ça, c'est vraiment du yiddish. Donc, par une espèce de schéma inconscient absolument dingue, les Allemands, quand ils font « Auschwitz », ils disent tout simplement « hors de l'esprit ». Pas d'esprit ici, pas d'humour juif, pas du tout. Je crois que ce qu'il est important d'injecter là-dedans, et je ne suis pas le premier à le faire, Romain Gary l'a très bien fait dans un magnifique roman qui s'appelle « La danse de Gengis Khan », par exemple, c'est d'y insérer, non pas de la provocation, pas du tout, mais au contraire d'y remettre de l'esprit. Car moi, je ne vais pas visiter des gens qui sont morts et qui avaient envie de vivre avec moi, un tempérament morbide. J'y vais avec toute la... j'allais dire, la puissance de mon rire, la puissance de ce que j'ai envie de faire renaître, mais j'y vais pas en disant, bon, c'est, vous savez, c'est un devoir de mémoire, alors... Non, pour moi, il n'y a pas un devoir de mémoire, il y a un devoir d'apprentissage. Donc, je vais pour apprendre les choses aux gens, parce qu'après, ils se souviendront, après, leur mémoire, leur devoir de mémoire, ça les concerne. Moi, j'y vais, je leur apprends des choses. Et donc, quand j'apprends quelque chose, eh bien, j'y mets toute la force de ma passion. Et oui, effectivement, il y a des gens... Remarquez, je vais vous dire quelque chose. C'est le seul sujet sur lequel j'ai jamais fait partir personne de la salle.
Alors évidemment, une musique, pas besoin d'images, d'explications, sont des notes. Là, évidemment, on a donné beaucoup d'explications et beaucoup d'images. Est-ce que cette musique, elle peut vivre juste pour ses notes, sans explications, sans images, par rapport à cette première étape de devoir, mais comme vous venez de le dire, il y a déjà un après. Est-ce que le but, c'est qu'elle vive juste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire... des notes.
Je ne sais pas si Jonathan veut répondre, je peux donner peut-être un premier élément de réponse, puis tu me diras si Jonathan, si je me suis fourvoyé dans ma réponse. Jusqu'où, et ça c'est peut-être valable pour toutes les musiques, jusqu'où un musicien qui interprète n'importe quelle œuvre ne doit-il pas être totalement imprégné de la vision de l'époque qui a vu naître l'œuvre pour pouvoir retransmettre avec une vraie puissance la musique qu'il joue. Autrement dit, c'est presque la question pour toutes les musiques. Ce qui est vrai pour cette musique si particulière de musique composée dans les camps de concentration, c'est pas tant qu'elle peut vivre ou pas seule, c'est que de toute façon, nous, même en tant que public, nous y injectons les images des films que nous avons vus d'Alain René, vous savez, ces films terribles, etc. Donc, je veux dire, de toute manière, qu'on le veuille ou non, cette musique, elle existe, et elle peut être interprétée telle qu'elle, mais dès lors que nous savons où est-ce qu'elle est née, c'est nous qui injectons les images. Donc, la musique, c'est pas qu'elle génère des images, c'est nous-mêmes qui postons, si je puis dire, hein, tout ce qui nous a traversé les yeux et l'esprit, et d'horreur et d'image telle.
Oui, et je voudrais également rajouter dans cet même esprit ce qui est contenu dans cette musique aussi révèle des images que nous, parfois nous n'avons pas pensé aussi. C'est pour aller dans la continuité. Et dans, par exemple, dans le texte, dans cette, je parle de texte plutôt de littérature musicale. Donc c'est Émile Gouët. Il y a trois pièces donc que voilà, Elios m'a proposé. Donc la première pièce s'intitule Ambiance. La seconde Feuilles mortes. Et la troisième, Renaissance. Donc c'est comme trois mouvements, ces trois pièces. Mais bon, ça fait partie de... Déjà, c'est déjà très évocateur. Un cycle qui prend forme et qui se renouvelle. Et à l'intérieur de ce cycle, bien sûr, on trouve des éléments totalement... presque... au-delà de l'interpellation, parce que déjà, on se renoue avec l'époque, avec ce qu'il y a dans cette époque, dans ce contexte, ce qu'ont pu percevoir les compositeurs et aussi les scènes qu'il y avait aux alentours, que nous ne pourrons même jamais imaginer, tellement elles étaient quelque chose de... Mais grâce à ce texte, grâce à cette musique, on pourra approcher un minimum, un peu, la réalité de ce que cette vitalité existante dans les sons nous permettront de toucher finalement, parce que on touchera cet instance qui n'est pas tout à fait perceptible autrement que par cette vitalité directe, si je puis dire.
Alors, parlez-nous un petit peu du projet discographique que vous Alors, avez évoqué tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un disque qui s'appelle Même à Auschwitz. Même à Auschwitz. Parce que l'idée, c'est de dire que oui, même à Auschwitz, il y avait encore de la musique. Et donc, c'est un disque que j'ai réalisé donc, en tant que directeur artistique et musical de l'ensemble de musique incidentale et qui reprend tout le répertoire que nous interprétons en concert et qui va de la berceuse, petite berceuse polonaise à la petite berceuse tchèque, à la petite berceuse allemande, avec des grandes pièces de quatuor ou des trios de Gideon Klein ou des pièces de Berman, etc. Donc c'est le début, c'est le premier disque d'une collection qui s'appelle justement Musique d'outre-monde. Et dans chaque disque, il y aura toujours une œuvre que moi je compose, car il me semble qu'au-delà du travail justement purement d'historien, nous avons j'ai besoin, moi en tout cas, que de faire passer les écrits que je trouve, etc., à travers ma sensibilité. Et je suis maintenant régulièrement, ça fait déjà deux trois fois que des gens viennent me voir en me disant: tenez, j'ai découvert le carnet de mon père ou de mon grand-père à Dachau, etc. Est-ce que vous voulez faire quelque chose dessus? Je me retrouve avec des carnets inédits qui certains ont été écrits. Et là, le 8 mai, il va y avoir justement à Rouen un concert avec une création que j'ai réalisée à partir du carnet qu'a écrit quelqu'un en venant de Dachau. Et aussi une autre œuvre, Pourquoi tu raccordes, qui était composée sur le témoignage de la dernière survivante de l'Orchestre des femmes d'Auschwitz, pour laquelle j'ai écrit un Quatuor à cordes sur son témoignage.
Finalement, ces compositions actuelles, c'est un peu votre réponse à la question que je posais tout à l'heure sur l'après Auschwitz pour ces œuvres, c'est-à-dire qui ont été créées à un tel moment, qui, avec le devoir, avec tout ce que vous venez de décrire, de savoir est-ce qu'on peut les imaginer plus tard. C'est mêler la composition actuelle à ces compositions enracinées dans ce terreau si puissant que vous venez de décrire, c'est leur donner une force musicale encore peut-être plus puissante.
Mais oui, écoutez, ce que vous dites est vrai dans la mesure où rien n'est jamais plus mort que quand ça devient de l'histoire. Et ça, c'est valable pour le jazz, pour la musique classique, pour le rock, pour tout ce que vous voulez. Dès lors que vous prenez une œuvre musicale, aussi puissante soit-elle, et que vous lui mettez dessus le poids de l'histoire ou de l'institution, et que les conservatoires me pardonnent, vous les dévitalisez. Donc, le seul moyen de rester en connexion, justement, je suis sûr que c'est un terme que Jonathan aimerait, avec les œuvres et avec le génie que porte une œuvre, c'est d'y injecter de la vie et de la nouveauté. Et si possible, du talent et du génie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ce sont des choses qui sont définitivement, en général, aspirées par l'histoire qui vous met tout dans une espèce de graisse, comme dans du confit d'oie. Vous voyez, l'histoire, j'ai rien contre les historiens, puisque mon travail se base sur tous les travaux des historiens et des témoins. Donc, on a besoin d'eux. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire est une, comment dirais-je, une matière qui... je ne veux pas dire, est morte. Mais bon, voilà. Hein, donc c'est pour ça que oui. Et puis vous savez, c'est difficile de remonter le cours de sa sensibilité, de savoir qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui vous arrive quand vous composez une œuvre et qu'est-ce qui vous amène à composer une œuvre. Il y a quelque chose de très, très, très profond. J'ai trouvé quelque chose de moi là-dedans, dans ce sujet-là.
On a l'impression, entre ce que vous venez de citer, ces carnets qu'on vous apporte, et le nombre incroyable de partitions, que finalement, ce projet, cet engrenage dans lequel vous avez mis le doigt, il pourrait durer à l'infini, non ?
Et ça, c'est une très, très grande douleur de l'envisager. Je vous avoue véritablement. Déjà, par exemple, pour le disque qui va sortir là, incessamment, n'est-ce pas ? Quand mon nom apparaît au milieu de tous ces gens qui sont morts, il y a quand même un vertige. Je ne crois pas une indécence. Peut-être les mauvaises langues diront ça s'ils veulent chercher en moi un provocateur à tout prix, mais je pense que bon, faut pas être idiot, n'est-ce pas ? Bon, mais c'est quand même un vertige de voir mon nom. Moi, j'ai pas mis ni ma date de naissance, ni ma... enfin, et encore moins évidemment la date de mon décès, contrairement aux autres compositeurs. Et donc, oui, c'est un petit peu vertige. Et je vous avoue, là, il va y avoir 2 livres qui vont sortir au mois de janvier. Et sur tous mes précédents essais, il y avait toujours un chapitre central consacré à ces musiques-là. Il y a un moment où la vie au quotidien avec la question de la Shoah vous pose un véritable problème. Parce que le pire, c'est de reconnaître dans le quotidien d'aujourd'hui tous les micro-réflexes, toutes les micro-attitudes qui mènent finalement au désastre de 1933 et de 1939 et de 1940. Et petit à petit, vous avez développé comme une espèce d'hypersensibilité au manque de courage, au « j'ai rien entendu », à la voisine du dessus qui vous balance, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vivre là-dedans, il y a un moment où c'est vraiment très, très anxiogène. Donc, mon grand souhait, c'est de continuer à travailler ça, mais sans que ça me rende fou.
Bien, bah donc je rappelle que Musique d'Outre-Monde, on pourra entendre certaines de ces partitions donc le 14 mai à 20h30 et le dimanche 15 juin à 17h30 au Théâtre de la Vieille Grille, au 9 rue Larrey, à Paris, dans le 5e arrondissement, et donc également le 8 mai à Rouen, et donc très prochainement également sur disque et sur Cobuz. Merci Elio Sazoulay, merci Jonathan Binichou.
Merci à vous. Merci, merci.
Cobuz.com. Rencontre par Marc Zisman.